que voudraient que les chrétiens voient de plus en plus, c'est que la signification des événements de l'évangile, de la mort et de la résurrection du Christ, de l'exode au plein sens du mot, la signification n'apparaît pleinement que dans la signification de Jérusalem. Au terme de toutes ces contractions de l'Ancien Testament, ces convergences, et au point de départ, lorsque le voile se déchire, de toutes les projections à travers le temps et l'espace. C'est ça qui est important. Et on comprend justement l'universalité du mystère du Christ mourant et ressuscitant à Jérusalem pendant la fête de Pâques, que si on connaît ce mouvement-là qui marque toute la Bible, de systole et diastole. Vous vous rappelez, on en a parlé du professeur Kuhnmann. J'ai dit qu'il était allemand, je crois. Non, il est suisse. Attention, je sais à l'absus que j'ai fait. Tout converge vers là, et puis lorsque le voile se déchire, ça se projette. Alors c'est pour ça que je voudrais que cette visite du Saint-Sépulcre soit enveloppée d'une espèce de liturgie. Jérusalem que des collines entourent, j'ai étudié un article de géologie sur la question, et mon rêve, ça serait de faire une espèce de grande fête liturgique sur le thème de Jérusalem comme lieu saint au singulier. Mais il y aurait les premières vêpres, on se promènerait sur la bordure occidentale, tandis que le soleil illumine les murs de Jérusalem dans l'après-midi et le soir. Le lendemain matin, on se déroulerait pour être à l'aube dans un de ces jardins qu'on a fait sur le mont des Oliviers, d'où on contemple dans toute sa splendeur Jérusalem dans le soleil levant. On chanterait les laudes, là, après avoir fait quelques lectures. Et puis à l'heure de tierce, après avoir descendu le cédron, après le prophète Isaïe,
au-dessus du chemin du Foulon.
C'est ça, exactement. On pataugerait dans le canal d'Ézéchias, vers la piscine de Siloé, pour vivre le miracle de l'aveugle-né. Il y a deux lieux saints incontestables à Jérusalem, c'est les deux piscines qui encadrent le temple. Ça fait partie de l'iconographie de Jérusalem, là. Vous vous rappelez, David, là, les aveugles et les boiteux t'empêcheront de prendre cette ville. C'est pourquoi David ne peut pas voir les aveugles et les boiteux. C'est pourquoi les aveugles et les boiteux ne peuvent pas rentrer dans le temple. Bon. Dans l'évangile de Matthieu, on voit déjà les aveugles et les boiteux qui rentrent dans le temple. Et dans Saint Jean, alors c'est pas par hasard qu'il y a deux signes de Saint Jean qui s'inscrivent, l'un dans la piscine de Bethesda, le boiteux, là-bas au nord du temple, et l'autre dans la piscine de Siloé, l'aveugle-né. Et l'aveugle et le boiteux rentrent dans le temple. Et quand on va rappeler, c'est comme ça que Jésus conçoit sa mission messianique, lorsque les disciples de Jean-Baptiste, qui est en prison, viennent l'interroger de la part de leur maître et dit celui qui doit venir, vous y entendre un autre, il dit, allez dire à votre maître, les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est comme ça que Jésus voit sa mission. Alors ça, ces deux lieux saints sont incontestables. Et alors quand on peut patauger dans la piscine de Siloé, c'est une expérience qui dure une petite demi-heure, et qu'on retrouve la lumière, après ça, c'est vraiment pour nous aussi un miracle d'aveugle-né. Et ça rentre tellement dans le cas de Jérusalem, voir celui qui nous voit. Pour bien le comprendre, il faut se replonger dans le non seulement dans dire tout l'évangile de Saint Jean, mais voir le cadre de la fête de Soukhot et connaître la tradition juive de la fête de Soukhot. Ça se déroule dans le cadre de Soukhot, les grandes illuminations et tout cela. Et alors, après ça, on a pris l'habitude de célébrer dans notre chapelle, au fond, comme les premiers chrétiens. Cette chapelle, ici, elle devient un endroit où on aime bien se retrouver. Oui, on est ensemble dans un même lieu, et puis on échange, et on est bien pour célébrer l'Eucharistie. Et au fond, la présence réelle ne peut pas être plus réelle dans l'Eucharistie qu'on la célèbre là ou ailleurs. Alors plutôt que de faire la queue pour célébrer dans tel ou tel lieu, on préfère célébrer comme ça. Et puis alors, l'après-midi, on va faire un office des lectures, dans ce point de vue où tout a commencé, là. Et alors, l'attention, la signification de Jérusalem se projette jusque dans l'Apocalypse. On lit des textes sur cette Jérusalem mystérieuse dans l'Apocalypse. Et puis ce thème de l'eau, parce que les symboles sont plus riches que les idées pour exprimer la révélation, pour véhiculer la richesse de la révélation divine. Et alors s'il y a un symbole de Jérusalem, c'est l'eau. Tout commence avec la petite source de Sion, les eaux de Siloé qui coulent doucement, le fleuve qui réjouit la cité de Dieu. C'est pas que le débit a augmenté, c'est qu'on a expérimenté la puissance salvatrice d'un Dieu qui mène par-delà la mort, rappelez-vous ce qu'on a dit à la riche au début, là-bas. Et puis, à la fin, alors de Jérusalem, élevé au-dessus des collines qui l'entourent, un fleuve traverse le désert pour aller ressusciter la mer morte. Et Vous voyez, pour nous chrétiens, ce serait l'Église de Christ en croix, du côté ouvert, et puis ce texte liturgique que j'ai gravé dans ma mémoire, de sanguis und profuit, du sang et de l'eau sont sortis, du rocher, du Christ, du rocher du temple, du temple, pas du temple de son corps, et le cosmos tout entier régénéré. Et toute la signification de Jérusalem passe, s'inscrit entre la petite source de Sion et puis cette grande source apocalyptique, qui fait partie d'ailleurs indissociablement de la Jérusalem céleste que l'Apocalypse nous fait imaginer. Ce fleuve de vie, c'est la serpent. C'est très curieux de voir cette symétrie qu'il y a entre les récits des origines et les récits qu'on trouve à l'oméga de l'histoire. Les fleuves du paradis et puis les fleuves de... Et je crois que les pères de l'Église n'ont pas cédé à une imagination comme ça outrancière lorsqu'ils voient dans le côté ouvert de Jésus un petit peu ce qui s'est passé autant, ou plus que ce qui s'est passé autant. Alors ça c'est un petit échantillon du bruit de la Jérusalem actuelle. C'est à travers ce tumulte qu'on fait le chemin de croix le vendredi saint et puis qu'on se rend au Saint-Sépulcre. Alors je parlais tout à l'heure du caractère un peu anachronique là, à cause du statu quo de la liturgie du Saint-Sépulcre. Mais à mon avis, on a gardé un avantage, c'est qu'on lit toujours comme on faisait autrefois dans toutes les lamentations de Jérémie, dans le jeudi, le vendredi et le samedi saint. Et moi je pense que l'Église a perçu intuitivement que le mystère de Jésus, c'était le mystère de Jérusalem. Et que Jésus avait accompli les Écritures à Jérusalem, où toute l'histoire sainte se concentre là pour y trouver une signification plénière qui se projette ensuite à travers le temps et l'espace, de telle sorte que part de Jérusalem, on ne la quitte plus, parce qu'on continue à marcher vers la cité dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Alors, ce que je voudrais, c'est au sommet de cette retraite, la Bible sur le terrain, c'est qu'on fasse une sorte de liturgie sur les collines qui entourent Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom, et que comme toutes les liturgies des fêtes solaires, ça commence par les premières êtres. Alors en fonction du soleil, on se balade là-bas sur les collines qui entourent la cuvette de Jérusalem du côté de l'ouest et du sud, et ensuite le lendemain matin à l'aube, on est sur le mont des Oliviers, on contemple Jérusalem dans sa belle lumière, vers l'heure de tiers sont pâteuses dans le canal de Zéchias entre la source de Giron et puis les autres, la piscine de Siloé. Et puis on termine alors par un office de lecture dans ce palais, dans cet endroit qui a été choisi, c'est le plus beau point de vue sur Jérusalem. Ce sont les Anglais qui ont choisi ce point de vue là à l'ONU. C'est là qu'on a commencé, c'est là que l'ONU a succédé aux Anglais. Et alors comme tout office de lecture, on termine par comme tout office liturgique, là, on termine par un office de lecture devant ce spectacle de Jérusalem, et on voit la signification de Jérusalem alors faire comme éclater les frontières du temps et de l'espace et se projeter vers l'alpha de l'histoire et aussi vers l'oméga de l'histoire. Et quelqu'un qui se faisait faire cette expérience parlait de la contraction du temps. Bon, c'est pas encore l'éternité, mais les frontières du temps et de l'espace éclatent et on passe Jérusalem sans pouvoir la quitter, et l'intelligence se projette vers l'oméga de l'histoire, cette Jérusalem dont Dieu est l'architecte et le fondateur et dont nous sommes appelés à devenir chacun des pierres vivantes. Si nous entrons avec docilité dans le dessein de Dieu, refusant de faire des briques, refusant la logique de la production et ses esclavages, et puis acceptant la vocation que nous avons de l'homme fait à l'image de Dieu, en voyage vers Dieu, et puis appelé à entrer dans cette construction que nous fait entrevoir l'Apocalypse. Alors on va commencer une sorte de liturgie avec les premières vêpres, les laudes, l'office du milieu du jour et puis l'office de lecture, et ce sera comme au sommet de cette retraite. Et ensuite il restera encore une journée que je n'ai pas numérotée, c'est la journée d'Emmaüs, le Christ passant par Moïse et par les prophètes, c'est l'herméneutique des Écritures, et puis se faire reconnaître à la fraction du pain, et cela pour nous apprendre non pas où se trouve la vraie maison de Cléophas, mais pour nous apprendre que quand on a compris un peu cela, quand on a un peu soupçonné le mystère de Jérusalem, eh bien on en part sans pouvoir la quitter. Et toutes les journées de l'existence peuvent être comme des festins de la sagesse, où nous progressons dans cette marche qui nous mène vers cette cité de Dieu, où nous nous retrouverons dans l'harmonie, la joie, la paix, un bonheur sans fin.
Ciao.
Alors je dis ce matin que les événements de l'Évangile ne prennent leur signification vraiment plénière et universelle que dans la signification que prend Jérusalem au terme des contractions de l'Ancien Testament et au point de départ des projections que le Nouveau Testament fait faire à tout cela dans le temps et dans l'espace. Alors ce que je voudrais, c'est vous faire expérimenter cela. Faire une liturgie qui parte de la géologie de cette Jérusalem que des collines entourent, et puis passer de la géologie à la liturgie, en repassant toute l'histoire là, qui se projette jusque à la fois vers l'alpha de l'histoire et vers l'oméga de l'histoire. Tenez, une bonne dizaine d'années, j'ai fait l'expérience au moins néomonial du Bec et Loin, au temps de Don Gramont. Et là, il y a cette expression qui résume tout. Il dit, on fait ici l'expérience de la contraction du temps. C'est pas encore l'éternité, mais c'est plus le pointillé horizontal de l'histoire, grand T égale petit T plus 1. C'est déjà une sorte de contraction du temps par le jeu de la mémoire. Mais je vais vous faire expérimenter plutôt qu'autre chose.